L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Cairngorm Club, Aberdeen, Écosse. Nous sommes au 27e congrès annuel de ce club d'éminence grise, célèbre et nombreuse. Fondé en 1887, il est la plus ancienne, la plus respectée aussi, des associations d'Écosse. Il regroupe des scientifiques passionnés de randonnée et d'escalade. Ce pays magnifique, en effet, regorge de paysages vallonnés et de montagnes plus mystérieuses les unes que les autres. Et parlons-en, justement, de mystère aujourd'hui. L'invité phare du jour est le professeur John Norman Colley, un ponte reconnu depuis des années en ce qui concerne l'escalade et l'alpinisme. Le poids de l'âge chez lui se fait sentir et l'homme, aujourd'hui, se sent prêt à révéler à ses confrères l'une de ses plus angoissantes expériences. Elle s'est déroulée en 1891, il y a plus de 30 ans qu'il garde le silence. De peur de passer pour un fou. Mais depuis lors, ce phénomène le hante et le suit à la trace comme un vieil ami qui serait un peu trop envahissant. Aujourd'hui, il pense que c'est le moment pour lui d'exorciser ce qui lui pèse depuis des dizaines d'années. Ses mains tremblent, il se lève, réclame la parole, tout le monde se tait. Dans quelques instants, ces quelques mots provoqueront un véritable séisme dans l'Assemblée. Nous sommes le 12 décembre 1925, il est 20h25 et c'est l'heure H de mon histoire. Quelques heures plus tôt, le professeur Colley parcourait les routes d'Écosse dans un vieux taxi. Le chauffeur, à l'accent redoutable, l'avait pris en charge à Édimbourg. Le scientifique s'était longuement creusé les méninges pour préparer son discours. Il comptait bien profiter de ce voyage de quelques heures pour bien choisir ses mots. Engoncé dans un costume trois pièces en tweed, recouvert d'un pardessus qu'il gratte à intervalles réguliers, il a longuement hésité à raconter cette histoire aussi folle qu'inhabituelle. Des années durant, le scientifique s'est cru fou ou victime de ses hallucinations dont sont parfois sujets les crapahuteurs de montagne. Pensez donc, plus de 30 ans de silence. Personne n'a jamais rien su de cette expérience hors du temps. Celle qui a fait battre son cœur jusque dans sa gorge durant des jours alors qu'il était pourtant sorti d'affaire. Jamais dans sa vie, cela ne s'était reproduit. Mais maintenant que des années sont passées et qu'il n'est plus en mesure de n'accomplir que des tâches intellectuelles, le temps de parler était venu. Du moins, c'est ce qu'on lui demandait ce soir, en tant qu'invité d'honneur du Cairngorm Club. La berline noire traverse maintenant la ville d'Aberdeen, l'une des plus grandes d'Écosse, l'une des plus riches de Grande-Bretagne aussi, grâce à l'or noir qui, doucement, a pris une place conséquente dans l'économie du pays. Nous nous trouvons sur les bords de la mer du Nord. Dans la voiture, ballottée par le vent, le vieillissant professeur fait craquer ses doigts et réajuste son col pour couvrir entièrement sa nuque. Il a froid. Et malgré le soleil qui se couche entre les nuages de décembre, il frissonne en écrivant noir sur blanc ce qu'il a vécu dans les Highlands durant sa jeunesse. Voilà déjà une dizaine de minutes qu'il griffonne ses mots à la plume. Il aperçoit au loin, dans la lueur faiblarde des phares du véhicule, Muir Cottage. C'est une petite bâtisse blanche qui ne paye pas de mine, qui semble presque perdue au cœur du paysage de tempête qui s'installe. On se croirait dans un tableau de Géricault, sombre, au bord de l'abstrait et de la folie. Sur le seuil de la porte, un Panama sur la tête et une fourrure sur les épaules, le président du club l'attend avec impatience. Pour lui, c'est un véritable honneur. Ses moustaches frétillent. Le grand professeur Colley qui vient leur parler de ses plus belles expéditions. Ah, rien de tel pour clôturer l'année qu'un invité de marque tel que lui. Colley, lui, n'est pas spécialement réjoui à l'idée de la soirée qui s'annonce. Il la considère plus comme un coup de com', idéal pour la bombe qu'il s'apprête à révéler. Cependant, il n'a jamais aimé l'hiver. Les basses températures, le vent, la neige, la pluie, tout lui rappelle que son arthrose s'installe. Et surtout, entre deux averses bien écossaises, il croit le voir encore. Les mêmes bruits de pas, la même odeur. Parfois, cette étrange impression le poursuit pendant ses balades et ses randonnées. Dans d'autres cas, c'était soudain. Et ce soir, alors que le chauffeur de taxi lui souhaite une bonne soirée dans un patois que même un pur Écossais aurait du mal à comprendre, il claque la portière, terrorisé. Il le sent. Jusqu'au plus profond de ses tripes, il est là, qui le regarde. Cette impression si nette ne l'a plus quitté depuis 3 décennies. Elle va, elle vient, jamais pendant les belles saisons. Mais pour le professeur pourtant si rationnel dans son travail et ses recherches, il ne l'était plus du tout dès que les feuilles commençaient à tomber des arbres. Une angoisse qu'il n'expliquait pas s'emparait de lui, diffuse, par vagues de plus en plus hautes, instable. Et il en était victime pendant 5 ou 6 mois de l'année. Le pire, c'est qu'il ne savait pas de quoi il avait peur. Du moins, il ne l'avait jamais vu, si ce n'est dans son imagination, dans ses cauchemars, dans ses terreurs nocturnes qui le poursuivaient depuis des dizaines d'années. Le vent qui passe entre les branches des arbres derrière le cottage lui semble familier. Il se dirige vers le président du club, qui ouvre les bras dans sa direction, alors que ses yeux, eux, fixent la forêt. Il lui semble que 2 petits points jaunes sont là, tapis derrière les fourrés, et le juge. Ah ouais? Tu vas révéler notre petit secret? Et quoi? Tu penses que cela va me rendre moins réel, John? Bah tu te trompes, je suis là, et bien là. Car oui, la créature le nargue. Enfin, si créature il y a. Il n'en sait rien à vrai dire, strictement rien. Non, encore une fois, la peur panique qu'il ressent est aussi abstraite que délirante. Comment craindre quelque chose qu'on ne voit pas? Souvent, il s'est posé la question. Comme Platon en quête de vérité, il en a perdu jusqu'à ses cheveux. Le professeur rend un sourire de façade en réponse au mot d'accueil que lui adresse l'homme à la fourrure. Et le voilà en un instant face à une assemblée pendue à ses lèvres, avant même qu'il n'ait pu ouvrir la bouche. Ils sont une grosse dizaine, tous assis sur des bancs en bois, comme des écoliers, fascinés par un intervenant extérieur en jour de classe. Certains boivent du brandy, d'autres du whisky. 2 d'entre eux demandent une vodka martini. C'est un peu l'assemblée des randonneurs embourgeoisés. Sourire amusé du professeur qui, lui, vit et respire montagne et science depuis toujours. De sa poche intérieure, il sort son bout de papier. Tout y est griffonné avec empressement et chaque phrase se termine par une traînée synonyme de son voyage plus que chaotique. Voilà qu'il démarre sa lecture, passe les premières formules de politesse, remercie le président dont les tempes rougissent à l'évocation de son nom. Ah, l'ego, toujours l'ego, l'instrument des faibles et des frustrés. Tout ce que lui, il n'est pas. Mais il sait jouer à la perfection avec les armes de ceux qui doutent d'eux-mêmes. Il avait rapidement cerné son interlocuteur et donc ce petit mot bien placé était l'assurance de ne pas le froisser. Mais le passage intéressant, lui, ne va pas tarder à arriver. Il marque une pause à la fin de son paragraphe. Toise l'assistance. Chaque visage illuminé attend la suite de ses aventures. Le professeur n'a pas vu le journaliste qui est présent sur le côté de la pièce et qui, le pantalon tenu par des bretelles, écrit à toute vitesse tout ce qu'il peut raconter. Demain, son discours sera dans le journal local. Les déflagrations de la bombe qu'il s'apprête à lancer, elles, seront immenses. Après une profonde respiration, Colly se lance. Il s'exclame. Je commençais à penser que j'avais entendu un bruit autre que le bruit de mes propres pas. Après quelques pas, j'entendis un craquement et puis un autre, comme si quelqu'un était en train de marcher derrière moi, mais faisant des pas 3 ou 4 fois plus longs que les miens. Alors que l'étrange craquement résonna derrière moi, je fus saisi de terreur et je m'enfuis en courant tant bien que mal, sans voir où j'allais, parmi les rochers, sur 4 ou 5 milles. Les deux yeux jaunes dans le noir à l'extérieur, eux, n'ont pas cessé de reluire. Notre histoire commence à la fin de l'automne 1891. Nous sommes tout au long de leur âge d'aujourd'hui, au cœur des paysages de la sublime Écosse, véritable écrin de verdure, bordé de forêts et de vallons. Au cœur du massif des Cairngorms, l'un des plus hauts sommets du Royaume-Uni qui se dresse au milieu d'un paysage tantôt végétal, tantôt désertique. Le Ben MacDhui est une zone où la neige règne en maître une fois l'hiver venu. Et nous n'en sommes pas encore là, mais déjà, son sommet est recouvert d'un manteau blanc, immaculé. Un étang, un loch, à son pied lui donne presque un air confortable, agréable. Oh, il n'en est rien. Son ascension est sèche, difficile, et met à l'épreuve les organismes les plus entraînés. Il n'est pas très haut, un tout petit peu plus de 1300 mètres d'altitude, mais les conditions y sont souvent difficiles. Généralement, c'est la brume qui vient de manière aléatoire compliquer les parcours d'ascension. John Norman Colley n'est encore qu'un jeune alpiniste en quête de sensations fortes. Sa carrière ne décollera que l'année suivante après une ascension sans guide de l'aiguille du Grépon, tout près de Chamonix, dans le massif du Mont Blanc. Ce matin, il est sur la route qui mène au sommet de cette montagne toute particulière. Sa mèche blonde balaie ses sourcils et ses mollets, durs comme l'acier, gravissant les kilomètres à la recherche de hauteur et d'air frais. Il n'est qu'à quelques centaines de mètres du sommet. La piste, longue d'un peu plus de 7 kilomètres, touche à sa fin. La verdure, déjà, a complètement disparu. Plus aucun arbre. Quelques brins d'herbe mourant avec l'apparition de l'hiver. Il est passé par le col de l'Airigrou avant d'attaquer ce qu'il veut être la dernière étape de sa journée. Ses chaussures de marche fatiguent, ses pieds meurtris aussi. Mais le sommet est proche, il le voit presque. Il n'y a là-haut que des cailloux qui font un bruit sourd quand on marche dessus. Parfois, ils tombent plus au loin et ricochent le long du chemin d'accès. Il est tout seul ce matin, le jeune John. Il a refusé d'être accompagné par Jack, son camarade de chambrée. Non. Il a besoin de se vider la tête pour mieux se préparer. Il projette déjà ce fameux voyage en France qui va le rendre célèbre bientôt. Et pour cela, quoi de mieux que la solitude du grimpeur? Le voilà maintenant à quelques pas du monticule central qui couvre le sommet de roche. Le temps est clair, le ciel dégagé. Les conditions sont bonnes, bien que le froid se soit installé depuis quelques semaines. À chaque respiration, une bouffée d'air glacé sort de sa bouche dont les lèvres sont gercées. Le regard vers l'horizon, le sentiment du devoir accompli. Quelques secondes de plénitude et d'un coup, comme ça, sans prévenir, surgit la terreur. Tout à fait comme la brume qui vient de l'envelopper. Le soleil n'est plus visible, plus du tout. Juste le brouillard, l'air froid et la terreur. Un sentiment inexplicable pousse John à redescendre avec rapidité, précipitation aussi. Ses mains sont moites et ses jambes flagellent. Son cœur bat à tout rompre et il lui semble qu'il n'est même plus dans sa poitrine. Non, il l'a dans la gorge et il a la nette impression qu'il se met à respirer trop fort. Bientôt, c'est tout son appareil respiratoire qui sortira de sa bouche et s'écrasera sur le sol froid et brumeux de cette fin de matinée si particulière. Le jeune homme fait donc rapidement demi-tour et manque de tomber sur les pierres plates qui recouvrent le haut de la montagne maintenant plongée dans la brume. Quelques pas et puis le premier bruit, feutré au loin. On dirait comme une chaussure dans les cailloux derrière lui. Une petite pierre vient d'ailleurs rouler à ses pieds. John s'arrête, tétanisé. Mais derrière lui, les pas, eux, n'ont pas décidé de jouer la même musique. Au contraire, ils accélèrent. L'alpiniste en herbe a la nette impression que celui qui a décidé de lui jouer un mauvais tour est bien plus grand que lui. Tellement que cela semble, à vrai dire, à peine normale. Sans parler de son odeur, forte, malodorante, insupportable. Un mélange entre des relents de pourriture et celle d'une bête sauvage. Un loup ? Ah ben non. Non, le rythme des pas est celui d'un bipède. Un ours dressé sur ses pattes ? Allons, John, John, nous sommes en Écosse. La troisième option, si elle existe, lui glace le sang. Oh, il n'a jamais cru aux légendes locales, non, il n'est pas de ce bois-là. Pourtant, rien de tout ce qui se passe là, maintenant, est normal. Pas une once de rationalité possible. Alors, le jeune John décide de s'enfuir en courant, comme un enfant face au croque-mitaine. Et derrière lui, les pas aussi accélèrent, comme s'il cherchait à l'attraper. Arrivé au loch, en contrebas de la montagne, sauvé, il retrouve le soleil et la verdure. Il n'est plus poursuivi. Mais il est persuadé d'avoir rencontré la créature dont tout le monde parle ici. L'Amphir le mort, ou si vous préférez, le géant gris. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, un journaliste présent au club ce soir de 1925 va publier dans son papier les paroles du professeur Colly. L'effet est immédiat. Certains habitants vivant autour de la montagne vont témoigner eux aussi dans ce sens. Oui, oui, il existe bien un monstre vivant dans les sommets entourant le Mac Duy. Certains parlent d'un grand animal, d'autres évoquent au contraire un singe ou un homme sauvage. Personne n'est d'accord. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est sur son territoire, ici, entre les roches et les loques, et qu'il est un instrument de terreur. Certains chiens partis à l'aventure tout seuls dans la forêt ont disparu. Certaines dépouilles de bétail éventrées ont été retrouvées. Jamais on n'a pu expliquer ce qui leur est arrivé. Les bergers ont bien pensé à des attaques de loups, mais les battues n'ont rien donné, absolument rien, grand vide. Certains témoignages, pourtant, concordent les uns avec les autres. Les vieux des villages voisins ferment leurs volets tôt le soir des mois d'hiver, à croire que la bête hiberne l'été. Ce qui, vous en conviendrez, est assez particulier. La plupart parlent à la presse en disant que les poils de la créature sont courts, gris, et qu'il ressemble à un humanoïde qui marcherait sur ses deux pattes, une sorte de grand singe sorti des pires contes pour enfants, qui rappelle le croque-mitaine ou les créatures monstrueuses dont on se sert pour faire peur à tous les garnements du pays. Le deuxième plus haut sommet du Royaume-Uni serait donc le théâtre de phénomènes particulièrement étranges. La presse rapporte qu'un jeune garçon aurait vu un singe boire au bord du loch au pied de la montagne. Grand, gris, tout semble coïncider. Rien de nouveau seulement. Les légendes locales les plus anciennes évoquent l'existence de farfadets et de gnomes qui parcourent les montagnes et qui sont eux-mêmes pourchassés par des ennemis à la recherche de leurs trésors et de leurs marmites d'or. Ce que raconte le professeur Colly ouvre donc la voie à de nombreuses autres histoires du même type. Cependant, la zone n'est pas connue pour des disparitions humaines inquiétantes. Pourtant, la brume qui recouvre cette montagne souvent de manière inexpliquée, les témoignages sur les odeurs et les présences, tout cela semble bien réel. Et s'est déroulé longtemps avant cette soirée qui raconte l'horrible aventure dont le professeur Colly a été la victime en 1925. Le géant gris serait une sorte de grand singe assoiffé de sang et de terreur. Et là, je vous connais, vous allez me dire que vous sentez l'arnaque arriver, pas vrai ? Je vous ai déjà parlé dans un autre sujet de leur hache, du Yeti et du Bigfoot, n'est-ce pas ? Alors vous allez assurément me dire que mon histoire ressemble tout particulièrement à celle de ces deux monstres qui parcourent les montagnes du Tibet et les forêts d'Amérique du Nord. Un peu, c'est vrai. Du moins, certains détails concordent. Alors, à la manière d'enquêteur, tentons de percer le mystère de ce Yeti d'Écosse. Parce que vous allez le voir, c'est quand même pas si simple. Le géant gris, lui, a des particularités à vous faire frémir l'échine de haut en bas. Patience, patience. Nous y sommes presque.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, mon heure H porte sur une légende locale de l'Écosse, un monstre des montagnes qui terrorise les habitants et les grimpeurs. Le géant gris, c'est son nom, est un mythe popularisé par le professeur Colly, un as mondial de l'alpinisme. 30 ans avant de partager sa propre expérience, le jeune homme a vécu une expérience traumatisante, persuadé d'être agressé par une vilaine créature dont il n'a pas vu le visage. C'est le début d'une rocambolesque aventure qui aura pour conséquence de transformer le sol de la région en une frénétique terre de désolation et de malédiction. Le Ben Magdui sera la région la plus maudite du pays, au grand dam de ceux qui aussi aventuraient. Nous sommes au tout début de l'année 1926. Nous sommes à Londres, tout près du London Bridge qui, triomphant, enjambe la Tamise depuis déjà fort longtemps. Le temps est maussade, particulièrement brumeux. C'est ici ce qu'on appelle le Frog. C'est loin d'être la brume du continent européen. Le docteur Kellas, qui, de derrière son rideau, observe les passants marcher, sait de quoi il parle. Dans son pays, la brume avait une couleur et véhiculait une atmosphère particulière. Sa lampe à huile éclaire faiblement son bureau, dans lequel il est installé depuis des heures. Une plume à la main, les doigts de l'autre, cramponné au rideau comme pour vérifier que personne ne va entrer. Il cherche ses mots. La presse d'Aberdeen a rapporté il y a quelques jours les mots du professeur Colly sur la montagne hantée. Oui, lui, c'est comme ça qu'il l'appelle depuis ce fameux jour de 1903. Ses petites lunettes rondes ajustées sur son nez lui permettent de relire ce qu'il a déjà rédigé. Et sa moustache épaisse tremblote sous le poids des souvenirs. Il est douloureux à écrire, ce courrier. Il est adressé au professeur Colly pour lui prouver qu'il n'est pas fou, pour lui raconter que lui aussi, avec son frère, ils ont vu quelque chose d'étrange, de terrifiant. Leur histoire s'est déroulée quelques années plus tôt, au cœur d'un hiver glacial. La neige avait recouvert depuis longtemps les pics et les rochers du Ben Magdui. Ce scientifique, spécialisé dans la flore des montagnes, était accompagné de Henri, son frère alpiniste. En traversant la forêt qui conduit au sommet, déjà les deux jeunes avaient senti une présence et s'étaient mutuellement rassurés en évoquant un quelconque animal. Rien dans ce paysage si particulier ne leur permettait de penser qu'un prédateur rôdait. Pas ici. Pas dans le nord du royaume. Et puisque toute la montagne était particulièrement dégagée, eux aussi se sont fait prendre dans une brume épaisse une fois arrivés au sommet. Depuis lors, ils détestaient ça, le brouillard. Car ils savent désormais que derrière cet écran de fumée particulièrement dense peut se cacher n'importe quoi ou n'importe qui. Satisfaits du temps qu'il leur a fallu pour grimper l'entièreté de la montagne, ils se sont laissés prendre au piège. Non pas par le temps, la brume, après tout, ne les a pas empêchés de se repérer. Pas quand on est des as de la montagne comme eux. En revanche, en levant le nez de sa montre, Henri, soudain, fut pris de panique. Inexplicable. Une peur primaire, presque, qui les a ramenés au temps où les hommes étaient aussi des proies. Sans rien dire, il a pointé de son bras tremblant une direction à l'intention de son frère. Et lui aussi a clairement vu cette ombre immense, géante, qui au loin semble se diriger vers eux d'un pas rapide. Et que faire? Courir? Ils essaient, mais sont tétanisés, comme cloués au sol. L'ombre, elle, finit par disparaître dans un vallon. Et c'est uniquement au moment où, enfin, leur regard se détache de cette chose qui a tenté de les rejoindre, que leurs jambes se libèrent et qu'ils détalent comme des lapins. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais dès qu'il était descendu de la montagne, Henri avait tout de suite avoué à son frère être assailli par une étrange sensation, celle d'être hanté et d'être poursuivi. À partir de là, Henri ne vivra plus jamais l'esprit tranquille. Après la guerre, Alors qu'il prend des anxiolytiques depuis cette rencontre paranormale au sommet du Mac Duy, il décide d'accompagner l'expédition de 1921 sur l'Everest. Il y trouvera la mort, tombant dans une crevasse au-dessus de laquelle tous les autres sont passés sans problème. Son frère y a vu une malédiction. Il s'est tué, de peur d'être pris pour un fou. Mais maintenant que le professeur Colly a osé, pourquoi pas délier sa langue lui aussi? Cette lettre, expédiée dans le nord du royaume en direction de l'émérite premier de Cordée, finira, après plusieurs rebondissements, par sortir dans la presse nationale de l'époque. Les médias prennent la balle au bond et se saisissent de l'affaire. Si deux scientifiques, coup sur coup, osent parler de cette incroyable et terrifiante expérience, cela ne peut être que vrai, non? C'est ainsi que plusieurs journalistes, certains très sérieux, d'autres y voyant l'opportunité de gros titres racoleurs, se jettent sur les traces du Big Grey Man et continuent de semer le doute dans les esprits les plus rationnels. Mais parlons-nous ici au moins réellement d'un Yeti d'Écosse, comme certains aiment à le dire? Rien n'est moins sûr. En effet, la forme humanoïde décrite ne provient que d'une impression. Jamais personne, avant 1943 du moins, nous y reviendrons, affirme avoir vu la créature de près. Il s'agit seulement d'une sensation de pas, d'une forme lointaine, grande, très impressionnante. La publication de ces deux premiers témoignages, renforcée par le caractère scientifique de leurs auteurs, ouvre donc la porte à d'autres histoires, qu'elles proviennent de randonneurs amateurs ou d'alpinistes plus chevronnés. Et ainsi le doute s'installe. En effet, dans les récits qui suivent, personne ne parle d'une rencontre de près. Au contraire, la plupart des témoins avouent n'avoir rien vu. Rien, que dalle, pas un poil, pas une forme, pas une empreinte, non. Ils ont juste expérimenté une incroyable sensation de terreur. Inexplicable, irrationnelle. Comme l'impression diffuse d'être maudit et de devoir courir pour sa survie. Ils ont cru à la présence d'un spectre, mais sans une forme précise. Et puis après tout, un fantôme a-t-il une réelle apparence? C'est pas si certain. Un ouvrage sorti en 1939 va entretenir la légende de cette chasse aux esprits sur la montagne écossaise. Alastair Borthwick est scientifique. Il décide d'écrire un ouvrage ayant pour sujet les montagnes à escalader dans le pays. Il s'arrête bien entendu sur le cas du Mac Duy, évoquant le témoignage de deux alpinistes de sa connaissance. L'un d'entre eux nous éclaire sur le sentiment de peur partagé par ceux qui atteignent le sommet de cette montagne. Ce qu'il dit résume bien la plupart des expériences recensées. Cela se passe durant une nuit d'hiver au sommet de la montagne. Il faut tout de même aimer le danger, vous en conviendrez. Il raconte à l'auteur. J'entamais ma descente lorsque j'entendis derrière moi des bruits de pas. Non pas à mon rythme de marche, mais à celui d'un derrière moi tous les trois pas réalisés de mon côté. Je sentis tout d'un coup un souffle glacé dans le bas de ma nuque. Mais je me suis dit tout de suite, c'est de la folie. Il doit y avoir une raison rationnelle à ce qu'il m'arrive. Je me suis donc arrêté, et les bruits de pas derrière moi s'arrêtèrent. Je me suis assis là et j'ai cherché une raison à imputer à ce qu'il se passait. Je n'ai rien vu. Il y avait bien la lune quelque part, mais la brume était si soudaine et si épaisse que j'étais comme perdu. Je me suis donc dit que mes pas créaient de l'écho. Mais alors, pourquoi seulement tous les trois pas? J'ai eu peur et je me suis relevé, marchant calmement en tentant de ne jamais regarder derrière moi. Je suis arrivé en bas sans dommage et les bruits de pas se sont arrêtés 1000 pieds environ avant mon point d'arrivée. J'ai été terrorisé. Plus loin dans son ouvrage, l'auteur interroge les gardes forestiers qui travaillent en contrebas de la montagne. Il leur demande s'ils pensent que cette histoire de présence ou de géant gris est réelle ou si cela n'est pour eux qu'une histoire de fou. Pour seule réponse, les visages se tendent, les expressions se crispent. Et l'un des gardes, d'un air grave, lâche seulement ces quelques mots. Nous ne voulons pas parler de ça. Mais alors, que se cache-t-il derrière ce mythe qui hante le sommet du Mac Duy? Certaines personnes ont-elles vraiment vu ou entendu le prétendu monstre ou esprit? Vous allez voir, la décennie 1940 apporte à elle seule son lot de réponses.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, notre heure H porte sur un mystère aussi célèbre en Écosse que le fameux Loch Ness, celui du monstre ou de l'esprit qui crapahute sur les hauteurs de la montagne Ben MacDhui. Sentiment de terreur inexplicable, bruit de pas qui ne correspondent pas à l'écho de ceux faits par les victimes du phénomène, vision d'une ombre terrifiante. Tout porte à croire qu'il existe bien quelque chose qui sème l'angoisse sur les hauteurs. Mais aucun dans les témoignages ne signale avoir vu de près une éventuelle créature, ce qui alimente le scepticisme et le doute. Mais alors, que se passe-t-il sur la deuxième plus haute montagne du Royaume-Uni? Eh bien, nous allons tenter de percer le mystère. Nous sommes à la fin de l'été 1940. Richard Freyr est un amoureux des montagnes de son pays. Mais régulièrement, bien que la guerre fasse rage désormais, il aime aller à chaque période de l'année planter sa tente sur l'une d'entre elles. Cette fois, il a choisi le MacDhui. À l'orée de la forêt, face à la pleine lune, il se couche après avoir éteint le feu de camp sur lequel il a fait cuire son repas du soir. Saucisse, lentilles, rien de mieux avant d'aller dormir. Et alors que Morphée s'apprête à le prendre dans ses bras, Richard est saisi par une sensation inexplicable de morbidité. Il pense même un instant avoir basculé dans une autre réalité. Il s'extrait donc de son sac de couchage et passe la tête hors de la tente. Grâce à la lune face à lui qui éclaire quelque peu les alentours, il remarque que deux yeux jaunes le fixent. Une forme vient même cacher en partie la lumière naturelle de la lune. Il est terrifié. Il rentre à l'intérieur de sa tente et n'ose plus bouger. Il attend que la forme dehors, elle, s'en aille. Au bout de quelques minutes, qui paraissent des heures, la lune retrouve son éclat. Richard se risque alors à entrouvrir la tente. Il aperçoit qu'il s'éloigne tranquillement un animal haut de 20 pieds, très impressionnant, qui marche sur deux jambes. Il vient de voir le grand géant gris. 3 ans plus tard, et c'est sans doute là le témoignage le plus sensationnel au sujet de la créature. Un homme prétend avoir vécu la même situation que Richard Freyr. Mais lui aurait réussi à lui tirer dessus à 3 reprises à coups de revolver avant de s'enfuir. L'écrivaine Wendy Wood, elle, va plus loin. Elle note avoir entendu une voix, en plus des bruits de pas pressant derrière elle. Elle remarque également ce différentiel entre les deux rythmes de marche. Plus récemment, au début de la décennie 1990, 3 promeneurs, se baladant dans les bois au pied de la chaîne de montagne, près d'Aberdeen, ont été surpris par une étrange apparition. L'un d'entre eux a vu une forme humanoïde courir se cacher derrière des branches. Les 2 autres, alertés par lui, ont témoigné avoir également distinctement remarqué son visage, qu'ils ont qualifié chez les forces de police de la ville comme étant humain, mais non humain. Quelques semaines après ce premier épisode, alors que le trio quittait la région après son ultime trek, leur voiture, de manière inattendue, fut poursuivie par la même créature. Il ne semblait pas réussir à le semer, alors qu'il roulait à plus de 70 km par heure. Mais alors, que se passe-t-il vraiment sur le MacDhui et aux alentours? Les théories sur cette créature ou ce spectre sont nombreuses, depuis toujours. Les expliquer de manière rationnelle est difficile, tant le poids de la légende a pris le dessus de manière incontestable. Commençons donc par les recenser. Premièrement, la théorie qui tient la corde est la présence d'un yéti local. D'autres parlent d'un fantôme, d'un esprit ou de la matérialisation d'une malédiction lancée par un chaman il y a des siècles. Fort heureusement, des scientifiques se sont penchés avec sérieux sur les très nombreux témoignages qui fleurissent en majorité depuis les années 1920. Et cet aveu du professeur Colli. L'un d'entre eux, Andy Roberts, en a sorti une étude complète et parfaitement renseignée. Son premier chantier est, non des moindres, a été de trier les témoignages, séparant les fiables de ceux qui ne tiennent pas debout. Et il est exigeant, puisqu'il n'en sort que deux du lot. Du moins, dans ceux qui parlent d'une sorte de grand singe qui hante les flancs de la montagne. Et encore. L'un des deux admet lui-même qu'il s'agit peut-être d'une hallucination provoquée par la brume et par son imagination. Il n'en sait rien. Pour les autres témoignages, une fois passés par l'examen critique, ils sont retoqués, fantaisistes, tirés par les cheveux, sans rapport. Certains phénomènes décrits ne peuvent être reliés avec la présence d'un yéti écossais vivant avec la mission de terrifier les promeneurs et les spécialistes de la montagne. Cependant, il note dans son étude le fait que la peur panique et son apparition soudaine sont à chaque fois présentes. Et pour lui, c'est pas un hasard. Le voilà donc en quête d'autres témoignages de ce style dans d'autres lieux, en Écosse, au Royaume-Uni et ailleurs. Et bingo. Il déclare, lors d'une conférence à ce sujet, « En creusant profondément dans la littérature sur l'alpinisme, j'ai découvert que cette expérience de base est relativement répandue dans les zones sauvages ou montagneuses, mais a été soit ignorée, soit subsumée par le domaine plus large des histoires de fantômes. » Voilà donc une piste rationnelle, sérieuse. Face à l'altitude et à l'instabilité des conditions climatiques, notre esprit serait-il capable d'éveiller en nous une peur si irrationnelle qu'on y verrait des monstres? C'est en tout cas ce que croit notre homme. Mais il ne s'arrête pas là. Il cherche à recueillir lui-même des témoignages assez fiables pour ne pas être discuté. Rien que dans le Royaume-Uni, il recense deux cas au Pays de Galles, deux autres en Angleterre et, plus impressionnant, un trio sur la seule île de Skye, visiblement terrifiante à de nombreux endroits. Ce qu'il appelle la panique de la montagne serait donc un phénomène purement psychologique. Du moins, lui écarte rapidement la thèse des Yétis et leur cousinade à travers le monde, qu'ils soient installés au Népal ou en Amérique du Nord. Pour lui, c'est l'environnement qui agit sur l'esprit et non l'apparition soudaine d'une quelconque créature ou fantôme. Les nuages et les brumes sont fort courants à compter d'une certaine altitude. Pour étayer son propos, il parle enfin d'explications anciennes à ce phénomène particulièrement étrange. En Grèce et dans la Rome antique, les philosophes et orateurs notaient que le dieu Pan était à l'origine des disparitions ou des coups de folie dans les montagnes. Ce sont plutôt certainement les sentiments mêlés d'anxiété et de solitude qui influent sur notre imagination en s'appuyant sur les conditions climatiques. La puissance des éléments, leur incroyable force, beauté et grandeur serait telle que notre esprit ne pourrait dans certains cas pas le supporter. Et ainsi, nous plongerait dans un sentiment de terreur, voire de peur panique. Cet état second, en somme, ferait émerger de notre inconscient nos pires craintes. Cette arme de l'esprit, nous ne la maîtrisons pas encore dans toute sa profondeur. Notre vécu, nos sentiments primitifs, nos terreurs d'enfant, nos sentiments et nos ressentiments, le tout s'entrechoquant et se mélangeant. Et je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec une citation qui rappelle la force de l'esprit, du subconscient et de l'histoire. Cette citation est de Jean de La Beauchère. Je vous laisse méditer dessus et également sur ce géant gris écossais qui, réel ou non, continue de taquiner les esprits des plus aventureux. L'auteur écrit: dans le subconscient des anciens où naquirent tous les mythes, on ne pouvait croire que la plante et les fleurs ne fussent autre chose que l'apparence que les dieux voulaient bien nous en montrer. Voilà donc pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.